Bienvenue, si vous nous rejoignez, il est tout juste 16h à Paris.
Olivier Sherman.
Emmanuel Macron veut une accélération des négociations diplomatiques engagées par la France et ses partenaires européens avec l'Iran pour éviter une escalade militaire. Le président turc accuse Israël de préférer la guerre à la diplomatie. Et sur le terrain, au 9e jour de conflit, les frappes se poursuivent. Un site nucléaire touché et 3 commandants des gardiens de la Révolution tués dans des frappes nocturnes. En France, un homme arrêté à Lille. Il a acheté sur Internet des vidéos mettant en scène des viols d'enfants en direct des fait commis en Colombie. Et puis le Japon, frappé par une vague de chaleur sans précédent à cette période de l'année, avec des pointes à près de 40 degrés par endroit et même 45 en termes de température ressentie à cause du taux d'humidité très élevé. La guerre entre l'Iran et Israël, la diplomatie se poursuit. Le président français Emmanuel Macron déclare vouloir une accélération des négociations diplomatiques engagées par la France et ses partenaires européens avec l'Iran dans le but de désamorcer les tensions régionales et d'éviter une escalade militaire. Cette déclaration intervient à l'issue d'un échange téléphonique avec le président iranien, au cours duquel Emmanuel Macron a également exprimé sa profonde inquiétude concernant le programme nucléaire iranien. Emmanuel Macron a aussi, au cours de cet entretien, exigé la libération des deux otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris, tous les deux détenus en Iran depuis 2022, qualifiant leur détention d'inhumaine et d'injuste. Le ministre turc des Affaires étrangères a accusé samedi Israël d'entraîner la région vers un désastre total au 9e jour de la guerre avec l'Iran. Des propos tenus devant ses homologues de l'organisation de la conférence islamique réunie en ce moment à Istanbul. Le président Erdogan lui aussi accusé Israël de préférer la guerre à la diplomatie.
Avec toutes ces attaques, le gouvernement Netanyahou a une fois de plus prouvé qu'il constitue le principal obstacle à la paix régionale. Je maudis avec la plus grande fermeté les attaques menées par Israël contre l'Iran. Avec ces attaques du 13 juin, le gouvernement Netanyahou a en réalité cherché à saboter le processus de négociation. L'expérience montre également que Netanyahou et son réseau meurtrier refusent toute résolution diplomatique. İstemediğini de
gösteriyor. Le président turc Erdogan qui accuse donc Israël de préférer la guerre à la diplomatie. Israël prévient que la campagne militaire contre l'Iran sera longue, mais estime déjà que la guerre avait retardé d'au moins 2 ou 3 ans la possibilité pour Téhéran d'avoir la bombe atomique. Au niveau des frappes, au 9e jour du conflit, l'armée israélienne annonce bombarder cet après-midi le site militaire situé dans le sud-ouest de l'Iran et d'avoir attaqué cette nuit des sites de stockage et de lancement de missiles. Le site nucléaire d'Ispahan a également été visé. Confirmation de cette attaque par Téhéran qui affirme dans le même temps qu'il n'y a aucun risque pour la population et qu'aucune fuite de matériaux n'a été signalée. L'objectif pour les Israéliens est bien de compromettre le programme nucléaire de Téhéran. Mais à mesure que les installations, les laboratoires du régime sont frappés, une inquiétude, y a-t-il un risque d'accident nucléaire ? À ce stade, les attaques israéliennes contre l'Iran n'ont pas provoqué de rejet, de radiation affectant le public, a rassuré hier le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais quels sont véritablement les risques pour les habitants et l'environnement ? Explication de Simon Rosé.
Le site de Natanz, dans le centre de l'Iran, a lourdement été endommagé par les frappes israéliennes. Dans ce centre, il était principalement question d'enrichissement d'uranium. Il est placé sous forme de gaz dans des centrifugeuses qui permettent de séparer ces deux variantes auparavant mélangées, l'uranium-238 et l'uranium-235. C'est ce dernier qui est utilisé en différentes proportions dans les centrales nucléaires, mais également dans les bombes atomiques. Y a-t-il un risque alors à détruire ces installations ? Plutôt minime, l'uranium-235 n'est en soi pas très radioactif, c'est la matière première qui mènera ensuite à des réactions nucléaires et une explosion ne sera pas suffisante pour en déclencher. L'uranium sera donc majoritairement dispersé ou enterré sous des tonnes de gravats sans conséquences majeures. En réalité, la crainte est plutôt chimique en raison du gaz contenu dans les centrifugeuses, de l'hexafluorure d'uranium. En contact avec l'humidité de l'air, il se décompose en acide fluorhydrique et en fluorure d'uranyle très toxique. La pollution serait localisée mais pas sans conséquences pour les personnes à proximité. Une fuite d'hexafluorure d'uranium avait eu lieu il y a une dizaine d'années assassiné dans une usine d'enrichissement américaine. Cette personne située sous le panache avait souffert d'importantes brûlures.
Et l'armée israélienne dit également avoir tué 3 commandants des gardiens de la révolution dans des frappes nocturnes. Les frappes israéliennes en Iran ont fait plus de 400 morts, en majorité des civils, depuis le début de la guerre le 13 juin. C'est un nouveau bilan communiqué aujourd'hui par le ministre iranien de la Santé. Il y a en plus 3000 blessés. Dans le même temps, les tirs iraniens sur Israël ont fait 25 morts. La défense civile de Gaza annonce que 12 personnes, dont 8 qui attendaient de l'aide humanitaire, ont été tuées par l'armée israélienne dans le territoire palestinien, ravagé et affamé par plus de 20 mois de guerre. Et au Liban, l'armée israélienne affirme avoir frappé un site du Hezbollah pro-iranien de la région de Nakoura, dans le sud du pays, au cours de la nuit. L'ancien président tunisien Mansef Marzouki, critique virulent du chef de l'État actuel, Karis Saïd, et qui vit en exil en France, a de nouveau été condamné en son absence à 22 ans de prison pour des crimes liés au terrorisme. Le premier président élu démocratiquement en Tunisie après la révolution de 2011 avait déjà été condamné en février 2024 à 8 ans de prison ferme pour tentative de provoquer le désordre et fin 2021 à 4 ans d'emprisonnement pour atteinte à la sûreté de l'État depuis l'étranger. En France, un homme arrêté à Lille dans le nord du pays en début de semaine, il est suspecté d'avoir acheté sur Internet des vidéos mettant en scène des viols d'enfants en direct, des faits commis en Colombie où plusieurs personnes ont également été arrêtées. Ces viols d'enfants en direct commandés à distance sont un phénomène nouveau dont les autorités tentent de faire face depuis quelques années. Baptiste Coulon.
En 4 ans, cet homme de 55 ans aurait commandé 500 à 600 viols à une famille établie en Colombie pour une somme totale de 30 000 euros. Les victimes sont membres d'une même fratrie d'après France Info qui révèle cette affaire. Des filles, des garçons de tous âges abusés en direct devant une caméra. Une pratique appelée live streaming qui n'a cessé de croître ces 10 dernières années en Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Afrique et plus encore depuis la pandémie de coronavirus qui a exacerbé les violences intrafamiliales et empêcher certains pédocriminels de se rendre à l'étranger. Les autorités judiciaires et policières peinent encore à contrer le phénomène, car ces vidéos en direct sont éphémères, non enregistrées ou partagées sur des messageries, des applications peu coopératives, ce qui complique la recherche de preuves et l'identification des victimes. Des victimes et un commanditaire identifiés dans cette affaire avec le concours des services américains. Les pédocriminels qui recourent au live streaming sont considérés comme complices de viols sur mineurs. En France, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.
L'opposant biélorusse Sergueï Tikhanovski a été libéré en Biélorussie. Cela faisait 18 ans qu'il était incarcéré. Le Japon est frappé par une vague de chaleur sans précédent à cette période de l'année, avec des pointes à près de 40 degrés par endroit et même 45 en termes de température ressentie à cause du taux d'humidité très élevé. C'est la saison des pluies en ce moment dans l'archipel. Depuis le 1er juin, les employeurs sont tenus de prendre des mesures pour protéger leurs salariés contre le risque d'hyperthermie au travail. Comment cette nouvelle loi est-elle vécue sur le terrain? Les explications avec Bruno Duval à Tokyo.
Dans le secteur du bâtiment, l'alerte rouge a été déclenchée. Cet ouvrier, par exemple, porte un gilet rafraîchissant équipé de ventilateurs et au poignet un bracelet qui mesure en permanence sa température corporelle. Le travail se fait également en binôme. Chacun est prié de veiller sur un collègue, de l'inviter à s'hydrater régulièrement notamment.
Ces précautions me rassurent énormément. Et puis sur le plan humain, ça me touche beaucoup que désormais le chef de chantier et mes équipiers se soucient de ma santé.
Dans ce pressing du centre-ville, le gérant a fait installer un climatiseur ultra perfectionné qui, grâce à l'intelligence artificielle, tient compte de la température, du taux d'humidité, mais aussi du nombre de personnes présentes dans les locaux. Ce dont se félicitent ses salariés.
Pour repasser, on utilise des fers à vapeur qui dégagent une chaleur épouvantable. Avant, il faisait parfois plus de 40 degrés ici, c'était l'enfer.
C'est le jour et la nuit. Je ne dégouline plus à longueur de journée. Cette nouvelle clim a changé ma vie.
Les autorités multiplient les appels solennels à la vigilance. L'an dernier, plus de 2000 Japonais ont péri à la suite de coups de chaleur. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Et il n'y a pas qu'au Japon qu'il fait chaud. Une vague de chaleur culmine aujourd'hui aussi en Europe. Un vaste dôme de chaleur s'est installé sur l'Europe de l'Ouest et centrale, ce qui provoque une première envolée des températures de l'été 2025. Elle dépasse 40 degrés en Grèce, Espagne et Portugal. En France, encore 16 départements placés en vigilance orange canicule, surtout dans l'Ouest du pays où les températures pourraient localement atteindre 39 degrés. Tout de suite, la marche du monde, présentée par Valérie Nivelon.